RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 9,5-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs des quatre points du monde. Voici l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Notre émission sera commencée par le journal, suivi le commentaire et l'histoire d'aujourd'hui. Nous allons également présenter la rubrique Mon Indonésie. La rubrique suivante est le magazine culturel L'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, nous présenterons des musiques indonésiennes. Voilà le programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le journal et le commentaire.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Salutaires, bonsoir. Voici donc le journal. Nous commençons avec les titres. Zulkifli Hasan a déclaré que l'Idul Adha a inspiré la réalisation de la justice sociale. La ministre Susi a dit que le naufrage des navires était l'application de la souveraineté indonésienne. Observateur a dit que le permis pour les navires de pêche étrangère devait être complètement arrêté. Gebiar Batik Sleman 2018 sera tenu à la fin de cette semaine. L'autoroute de la mer stratégique pour l'Indonésie. Et enfin, le président espère que les médias d'Indonésie augmenteront chaque jour. Voici le journal complet. Le président de l'Assemblée consultative du peuple de la République d'Indonésie, Zulkifli Hasan, a déclaré que l'Idul Adha était l'inspiration de glorifier l'humanité tout en réalisant la justice sociale. L'obéissance du prophète Ibrahim et d'Ismaïl au commandement d'Allah était de glorifier l'humanité. Les résultats du sacrifice distribué à d'autres sont des efforts pour réaliser la justice sociale. Cela a été transmis par Zulkifli Hasan lors de la prière de l'Idul Adha avec le vice-président Yusuf Kalla à la mosquée Istiqlal Jakarta mercredi, comme rapporté par Antara. L'Idul Adha pour Zulkifli Hasan est aussi une inspiration de l'importance de la piété personnelle et de la piété sociale. À cette occasion, Zulkifli Hasan a invité la communauté à prier pour les Indonésiens touchés par les catastrophes, en particulier sur l'île de Lombok dans l'ouest de Nusa Tenggara. La ministre indonésienne des Affaires maritimes et de la pêche, Susi Pujastuti, a déclaré que le naufrage des navires de pêche illégaux était une forme de souveraineté dans les eaux territoriales de la République d'Indonésie. La ministre Susi, dans un communiqué publié mercredi à Jakarta, cité par Antara, a souhaité également que ces valeurs souveraines marquent le jour de l'indépendance. Le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère des Affaires maritimes et de la pêche et du groupe de travail 115, a de nouveau coulé 125 navires de pêche illégaux simultanément sur 11 sites en Indonésie. Le naufrage était mené directement par la ministre des Affaires maritimes et de la pêche en tant que commandant du groupe de travail pour l'élimination de la pêche illégale à Bitung, dans le nord de Sulawesi, lundi. La ministre Susi a ajouté que ce naufrage avait été intentionnellement fait coïncidant avec la fête de l'indépendance de l'Indonésie en tant que manifestation de l'effort visant à transmettre le message de l'indépendance de l'Indonésie pour remporter de nouveau la souveraineté des ressources halieutiques indonésiennes. L'observateur de pêche Abdi Soufan a déclaré que l'octroi de permis aux navires de pêche étrangers devait être arrêté et que le naufrage des navires de pêche illégaux devait encore être poursuivi. Même, il doit vraiment avoir un effet dissuasif. En mettant fin à la permission des navires de pêche étrangères, la politique en vigueur doit pouvoir encourager l'industrie de la pêche nationale, y compris les chantiers navals nationaux. Selon Abdi Soufan à Antara, à Jakarta, mercredi, des actions comme naufrage d'un navire sont en effet nécessaires, mais on espère qu'il y aura aussi une limite de temps clair pour cela. Si ce naufrage devient un programme régulier, il est à craindre que cela ne provoque pas d'effet de choc pour les pêcheurs illégaux qui opèrent souvent dans les zones nationales. Gebiar Batik Sleman 2018 se tiendra de nouveau du 24 au 26 août 2018 et sera fermé par Jogja International Batik Biennale ou JIWB le 6 octobre 2018. Le thème de cette activité cette année est l'innovation pour un avenir durable. Le but est de conserver Yogyakarta en tant que la ville de batik mondiale fixée par le Conseil mondial de l'artisanat. Le chef de l'industrie et du commerce de la résidence de Sleman, Tri Endah Jitnani, cité par Republika récemment, a dit que le thème a été choisi en accord avec le batik indonésien qui continue à innover. En termes de modèle de batik, de stratégie de marketing et de processus de production respectueux de l'environnement. Selon Tri Endah Jitnani, cette activité est l'effort du gouvernement pour toujours contribuer, notamment pour le développement de batik en Indonésie et Comédia pour introduire la tradition du batik au monde. Le programme de péage maritime est une percée d'infrastructures vitales pour réaliser la mer en tant que l'unificateur de la nation. La péage maritime est très stratégique pour la distribution et la logistique dans les petites îles isolées indonésiennes. Le président de l'Association des savants marins indonésiens, Abdi Soufan, a affirmé à Jakarta mercredi que le péage maritime était assez stratégique pour l'Indonésie, qui se composait de mers et de petites îles. Selon lui, la durée du programme en cours depuis 4 ans doit être évaluée, mais au moins jusqu'en 2024. Ce programme mérite d'être maintenu. Il a rappelé que le développement de la connectivité et de la compétitivité régionale à l'aide des pièces maritimes était un programme à long terme qui comporte de nombreuses variables telles que les aspects des ressources humaines et la gouvernance de l'industrialisation dans la périphérie. Le président indonésien Joko Widodo espère que les médailles des athlètes indonésiens participant aux Jeux asiatiques de 2018 augmenteront parce que la cible n'est pas petite. Cela a été dit par le président Joko Widodo à Bogor dans l'ouest de Java mercredi. Le gouvernement cible l'Indonésie existe dans le top 10 en termes de tableau des médailles d'or des Jeux asiatiques 2018. Selon le président Joko Widodo, chaque Tangjang rouge blanc a une cible de médailles aux Jeux asiatiques. Le président espère également que les athlètes et les officiels travaillent ensemble pour atteindre un maximum de résultats à chaque match. Serviteur, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires. Le point de vue de RRI World Service, la voix de l'Indonésie, sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Chers auditeurs, voici donc le commentaire et pour le titre, la catastrophe de Lombok, catastrophe de la nation. Le tremblement de terre sur l'île de Lombok et ses environs depuis le premier tremblement de terre de 6,4 sur l'échelle de Richter à 6,9 sur l'échelle de Richter le 19 août a fait plus de 500 morts, plus de 400 000 personnes déplacées et plus de 74 000 logements endommagés et autres dégâts. Les dégâts et pertes estimés atteignent 7,7 trillions de rupiah. En voyant l'impact du séisme de Lombok, de nombreuses parties ont proposé qu'il soit déclaré comme catastrophe nationale. Mais le gouvernement considère qu'il n'est pas nécessaire d'établir la catastrophe de Lombok comme une catastrophe nationale. De nombreuses parties ont ensuite remis en question la politique du gouvernement, pas beaucoup qui l'ont critiquée. En ce qui concerne la polémique, Sutopo Purwonugroho, chef du Centre de données des informations et des relations publiques de l'Agence nationale de gestion de catastrophes, ou BNPB, a également expliqué la question de la détermination des catastrophes nationales. La détermination est basée sur 5 variables principales, à savoir le nombre de victimes, la perte de biens, les dommages aux infrastructures, la couverture étendue de la zone touchée par la catastrophe et l'impact socio-économique causé. Mais selon Sutopo, cet indicateur n'est pas suffisant. Il existe des indicateurs fondamentaux difficiles à mesurer, à savoir la condition de l'existence et du fonctionnement du gouvernement régional, qu'il soit effondré ou non. Le tsunami d'Aceh de 2004 a été qualifié de catastrophe nationale à ce moment-là parce que le gouvernement régional, provincial et de résidence ou de ville, y compris les éléments centraux à Aceh, tels que le commandement de région militaire au Kodam et la police régionale, étaient effondrés ou en prison. Le gouvernement a ensuite déclaré comme catastrophe nationale. Le risque est que toutes les tâches du gouvernement régional soient prises en charge par le centre, y compris les administrations publiques, pas seulement la catastrophe. Avec l'existence d'un statut de catastrophe nationale, la porte est ouverte aussi large que possible pour l'aide humanitaire internationale fournie par d'autres pays et la communauté internationale. Ceci est une conséquence de la Convention de Genève. L'assistance internationale suscite souvent de nouveaux problèmes car elle concerne la politique, l'économie, socioculturelle, la défense et la sécurité. Donc, il y a des conséquences si vous déterminez le statut de catastrophe nationale. Par conséquent, depuis le tsunami d'Aceh 2004 jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu de catastrophe en Indonésie déclarée catastrophe nationale. Parce que le peuple indonésien a beaucoup appris de l'expérience de la gestion de tsunami d'Aceh en 2004, comme l'a expliqué Sutopo. En effet, il y a la tendance, chaque catastrophe à se produire avec un nombre considérable de victimes. Il y a toujours un discours pour que le gouvernement central la détermine comme catastrophe nationale. De nombreuses parties ne comprennent pas la gestion complète des catastrophes, y compris la détermination du statut et du niveau des catastrophes. Ils considèrent qu'avec le statut de catastrophe nationale, il y aura un accès facile aux ressources nationales, mais le fait, sans le statut de catastrophe nationale, le gouvernement a mobilisé toutes les ressources nationales. Des membres du personnel d'éléments centraux comme TNI, Polri, l'Agence nationale de recherche et de sauvetage ou Basarnas, des ministères concernés et autres ont été déployés. L'assistance logistique de BNPB, TNI, Polri et la communauté a également distribué. La nation indonésienne doit s'unir. Les catastrophes sont des affaires humanitaires. Débarrassez-vous des différences d'idéologie, de politique, de religion et d'autres pour aider les sinistrés. La communauté de Lombok a besoin de l'aide de toutes les parties. L'énergie nationale doit être unie pour aider les habitants de Lombok. Sans le statut de catastrophe nationale, la catastrophe de Lombok est également une catastrophe pour la nation indonésienne. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Bonsoir à tous, voici le programme de l'histoire d'aujourd'hui. Cette édition, on va parler de l'histoire survenue le 23 août. On commence par le 23 août 1939. L'Allemagne et l'Union soviétique ont signé un traité de non-agression. Le 23 août 1939, l'Allemagne et l'Union soviétique ont convenu de créer un pacte de non-agression pour pour ne pas s'attaquer mutuellement. Le pacte a été signé par le ministre des Affaires étrangères des deux côtés. Le pacte réglemente également que les deux parties restent neutres dans la situation où l'une des parties au pacte est attaquée et doit se battre avec des éléments étrangers. Mais l'Allemagne a violé le pacte de non-agression en lançant l'opération Barbarossa le 21 juin 1941 pour envahir la Russie. Le 23 août 1945, la création de Badan Keamanan Rakyat, ou l'Agence de sécurité du peuple. Le président Sukarno a officiellement annoncé la création de Badan Keamanan Rakyat, ou en français l'Agence de sécurité du peuple, le 23 août 1945. La création de l'Agence de sécurité du peuple a été suivie par la création de Badan Keamanan Rakyat Pusat, ou en français l'Agence centrale de sécurité du peuple, et Badan Keamanan Rakyat Daerah, ou en français l'Agence régionale de sécurité du peuple. Le 23 août 1949, la table ronde a commencé à La Haye, aux Pays-Bas. La conférence de la table ronde est une réunion qui a eu lieu à La Haye, aux Pays-Bas, du 23 août au 2 novembre 1949, entre des représentants de la République d'Indonésie, des Pays-Bas et de Bajankoms voor Federaal Overleg, représentant plusieurs pays créés par les Néerlandais dans l'archipel indonésien. La conférence de la table ronde est une occasion pour le peuple indonésien d'obtenir la reconnaissance de la souveraineté des Pays-Bas, de régler les différends entre l'Indonésie et les Pays-Bas et d'essayer de devenir un État indépendant des envahisseurs. Les résultats de la conférence de la table ronde comprenaient le transfert de souveraineté du gouvernement colonial néerlandais à la République d'Indonésie, sauf la Papouasie occidentale. L'Indonésie souhaite que toutes les anciennes régions des Indes néerlandaises deviennent des régions indonésiennes, tandis que les Néerlandais veulent faire de la Papouasie occidentale un pays à part en raison des différences ethniques. La conférence a été clôturée sans décision à ce sujet. Par conséquent, l'article 2 a stipulé que la Papouasie occidentale ne faisait pas partie de la passation des pouvoirs et que ce problème serait résolu dans un an. C'est tout l'édition de l'histoire d'aujourd'hui cette fois. Merci beaucoup. À demain.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Bonsoir chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici mon Indonésie, intitulé « L'état de la population de l'orang-outan de Kalimantan est critique ». La population des orang-outans de Borneo ou Kalimantan est dans l'état critique avec un nombre de baisses, a déclaré le chercheur en commémoration de la Journée mondiale de l'orang-outan commémorée tous les 19 août. Le chercheur Maria Voigt de l'Institut Max Planck Anthropologie Évolutionniste en Allemagne, dans une déclaration écrite reçue le dimanche, a déclaré que sur la base des caractéristiques des orang-outans, le taux de croissance rapide est impossible, même dans le zoo. De la compilation complète des données d'observation existantes, on estime qu'il y a une baisse de 25 jusqu'à 30%
entre 2005 et 2015. Les résultats d'une équipe de scientifiques dirigée par Maria White, qui se compose de 41 chercheurs, a été publié en mars 2018. L'équipe a constaté que la moitié des orang-outans de Kalimantan sont touchés par l'extraction des ressources naturelles. Leur nombre a diminué de plus de 100 000 depuis 1999. Adib Gunawan, le chef de l'Agence centrale de conservation des ressources naturelles de Kalimantan, ou BKSDA, a reconnu que la conservation était un travail de nécessité, beaucoup de temps et de la participation de toutes les parties concernées. Il a également invité la communauté à participer aux efforts de conservation des ressources naturelles. Les orang-outans, les seules espèces de grands cygnes en Asie, sont très importants pour la conservation des habitats. Cependant, le Centre de conservation des ressources naturelles à Kalimantan Ouest a organisé plusieurs activités dans le cadre de la commémoration de la Journée de l'Orang-Outan International 2018. Les événements sont organisés avec les partenaires comme la Fondation de Titian Lestari, WWF Indonésie, Programme Kalimantan Ouest, le Forum pour la conservation des orang-outans de Kalimantan Occidental, la Fondation de Palung et la Fondation de Planète Indonésia. La commémoration de cette année a pour thème Kalimantan Occidental et la Maison pour les orang-outans. Allons travailler ensemble pour sauver les orang-outans de Kalimantan. La série d'activités comprenait entre autres le concours de coloriage et de dessin pour les enfants des écoles maternelles et l'école élémentaire, et aussi la campagne d'action dans la zone de Car Free Day ou la journée sans voiture sur la rue Ahmad Yani. Dans cette campagne, la signature et des témoignages ont été réalisés par le public pour soutenir la conservation des orang-outans. Il y a également des interactions et des discussions avec le public, la distribution de matériel de campagne sur le thème des orang-outans sous forme d'épinglettes, de porte-clés, de tasses, de gobelets, de t-shirts et de fiches d'information. En outre, il y a aussi des campagnes hors ligne en collaboration avec un hôtel à Pontianak, sous la forme de lecture vidéo, l'installation de bannières, stand photo de 10 orang-outans de la Journée internationale de l'orang-outan et la distribution de matériel de campagne, y compris la lecture vidéo dans Taman Digulis soutenu par le gouvernement de la ville de Pontianak. L'activité s'est tenue du 18 au 19 août 2018. À cette occasion, le responsable de l'activité de la Fondation de Lestari Titian, Rangga Irawan, a déclaré que la population des orang-outans en baisse à cause des menaces pour cet espace protégé. Cela a fait le statut de protection des orang-outans de Bornéo en 2016 augmenter de critique à un danger critique d'extinction. Selon Rangga, l'élan de la Journée internationale de l'orang-outan est l'occasion de coopérer avec les parties pour unir leurs efforts dans le même but, à savoir la protection et la préservation des orang-outans. Chers amis, c'était la rubrique Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Inilah saatnya namamu bergema, maknai kekalahan sebagai kemenangan yang tertunda. Jangan pernah berputus asa, jadi yang terbaik. Show the world.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel Pesona Indonesia.
Chers amis, merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici Magazine Culturel. Et aujourd'hui, nous vous présenterons Black Canyon, situé à Pekalongan, Java Central. En Indonésie, précisément sur l'île de Java, il existe de nombreux sites touristiques tels que le tubing, le rafting et le body rafting. À Pekalongan, comme par exemple, il y a un site touristique appelé Black Canyon ou Kedung Sipingit. C'est une attraction naturelle située dans le village de Kayu Puring à Pekalongan. Dans ce site touristique, on peut descendre en cours des eaux assez rapides avec les eaux claires bleu-vert ainsi que de son côté entouré de grands vallées noires. Cela vous rendra fasciné pour ceux qui le voient. À Black Canyon, les visiteurs peuvent faire de nombreuses activités telles que la pêche, la descente de rivière, la randonnée pédestre ou le rafting. En payant 100 000 rupiah, vous pouvez profiter de nombreux équipements comme une boisson de bienvenue, déjeuner, casque, guirette de sauvetage, infrastructure ou le guide. Le certificat et aussi le véhicule au point de départ. Les sites touristiques sont encore libres et que le parcours est également assez difficile. Un guide est nécessaire. Le guide ici est très nécessaire pour la sécurité des visiteurs et des groupes. Le débit des eaux à Kedung Sipingit provient de la rivière Velo. La force des courants des eaux avec le niveau 3 qui convient aux débutants et pour ceux professionnels. Pour une fois, un voyage tubing est limité à un minimum 5 jusqu'à 20 personnes. Tout cela pour la sécurité des touristes. Pendant 4 heures, les visiteurs verront la beauté naturelle, les forêts et aussi l'air frais. La sensation que vous ressentez lorsque le tuyau de la rivière Velo est assez lourd entraînera l'adrénaline et rendra votre excitation de voyage plus complète. Du centre-ville de Pekalongan vers le site touristique de Black Canyon ou Kedung Sipingit, dans les 34 km, prend environ 1h30. Après son arrivée à la porte d'entrée, Bienvenue Écotourisme Petung Krio, continuez au village de Kayu Puring à une distance de 5 km. Cet endroit est encore à l'état sauvage et toujours belle, avec les courants des rivières rapides et les vallées obscures. Nous devons maintenir et préserver la nature en maintenant la propreté. Jérémy, c'était magazine culturel intitulé Black Canyon à Pekalongan, Java Central. Merci à tous et au revoir.
La voix de l'Indonésie depuis Jakarta dans la rubrique Bahasaku comme le média pour préserver la diversité des langues régionales en Indonésie.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Ma langue. Et cette fois, nous allons présenter les langues régionales à Sulawesi du Sud-Est. Chers amis, la voix de l'Indonésie à Jakarta dans le programme Ma langue comme média de préserver la diversité des langues locales en Indonésie.
Naku ino ari Kandari, Sulawesi Tenggara, suku Tolaki, tono lapasipolei atau tumorike, dinamako Sara atau Atora, yang tamono Atora Nobunua atau hukum adat. Atora ni ino dijalankan atau nyomoko lakoi metarambu secara organisasi struktur lah di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai desa.
Chers amis, nous venons d'écouter des exemples d'expressions en langue Tolaki, l'une des langues régionales en province de Sulawesi du Sud-Est. Dans cette édition, nous vous invitons à visiter la province de Sulawesi du Sud-Est. La province de Sulawesi du Sud-Est est située dans la partie sud-est de l'île de Sulawesi, avec Kendari comme capitale. Cette province est célébrée pour le parc national Wakatobi dans le district Wakatobi, un parc marin qui compte 750 espèces de récifs coralliens. De plus, cette province possède un tourisme historique, touristique et culturel. La province de Sulawesi du Sud-Est abrite également 10 langues régionales. Les 10 langues régionales sont divisées en deux groupes en fonction du lieu d'utilisation, comme l'a dit le Dr Sandra Safitri Hanan, MA, directrice du Bureau linguistique de Sulawesi du Sud-Est.
Jadi dari hasil pemetaan bahasa yang dilakukan oleh Badan Bahasa dan Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara itu ada 10 bahasa.
Ainsi, à partir des résultats de la cartographie linguistique menée par le Bureau linguistique de Sulawesi du Sud-Est, il existe 10 langues régionales locales Sulawesi du Sud-Est et dans cette condition, il y a deux familles de langues, la famille Bungkulaki et la famille Munabuton. La famille Bungkulaki se trouve sur l'île de Sulawesi, tandis que la famille Munabuton se trouve sur des îles dispersées dans la province de Sulawesi du Sud-Est. La famille Bungkuputra comprend la langue Tolaki, la langue Moronene, la langue Kulisusu et la langue Kulambaku. Et ensuite, la famille Munabuton comprend la langue Wolio, Muna Wakatobi, Lasalimu, Kamaru et Busoa. Dr. Sandra a également déclaré que la famille Bungkulaki et la famille de Munabuton sont des descendants de la famille des langues austronésiennes. Outre à Sulawesi du Sud-Est, le groupe Bungkulaki, ou appelé Bungkutolaki, est également parlé dans la partie orientale de la province de Sulawesi centrale. Elle n'a pas pu déterminer l'une des 10 langues régionales de Sulawesi du Sud-Est comme langue avec le plus grand nombre de locuteurs, parce que chaque groupe ou l'île a sa propre langue.
Kita tidak bisa melihat yang mana yang paling banyak digunakan karena misalnya kan ada wilayah daratan dan ada wilayah kepulauan.
Nous ne pouvons pas voir lequel est le plus utilisé car il existe par exemple une zone terrestre et des îles. Et maintenant, les plus utilisés à la zone terrestre de Sulawesi sont les langues Tolaki à Moronene. Pour les îles dispersées dans la région de Sulawesi du Sud-Est, chacun possède une langue. Par exemple, pour l'île de Buton, il y en a deux, la langue Muna et Wolio. Pour l'île de Wakatobi, on utilise automatiquement la langue Wakatobi. Voici un exemple en langue Tolaki. Inaku, inaku, en français, je. ingo-o, ingo-o en français tu. Ingito, ingito en français nous. Ihiro, ihiro en français il ou elle. Ingomio, ingomio en français vous. Chers amis, si vous avez des critiques, des suggestions, s'il vous plaît, écrivez-nous à médias sociaux Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @VoiceIndonesia. Chers amis, c'était le programme Ma langue, comme média de préserver la diversité des langues locales en Indonésie. Merci à tous et à la semaine prochaine.
La voix de l'Indonésie depuis Jakarta dans la rubrique Bahasaku comme le média pour préserver la diversité des langues régionales en Indonésie.
Chers amis, un grand merci de votre fidélité d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Avant de terminer cette émission, nous présenterons les musiques indonésiennes. Merci à tous et à bientôt.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis de la Voix d'Indonésie dans le monde entier. Voici le magazine de musique. Comme d'habitude, avant de terminer cette émission, nous allons vous présenter des musiques indonésiennes. Pour l'édition d'aujourd'hui, nous vous présentons des chansons nostalgiques chantées par Rinja Main. Pour ouvrir notre rencontre, voici sa chanson intitulée Le crépuscule à la frontière de la ville. Bonne écoute.
Selalu teringat padamu.
Seguritor, c'était la chanson de Rinja Main intitulée Crépuscule à la frontière de la ville. Si vous voulez envoyer une lettre par courrier électronique à french@voi.co.id et nous vous invitons également à rejoindre la Voix de Midi sur Facebook Voice of Indonesia ou à nous suivre sur Twitter @voiindonesia. Le nom complet d'une chanteuse, Rin Indriati Jamain, a atteint son âge d'or dans les années 1970. Elle est célèbre en tant que chanteuse de jazz indonésien. En dépit d'être une chanteuse professionnelle, elle n'a jamais suivi à un cours de chant. Elle ne chante que des autodidactes et essaie d'apprendre de sa sœur Ida Jamain, qui est populaire en tant que Jamain Sister. Commencer sa carrière en chantant du jazz tout en suivant le spectacle sur TVRI dans les années 1970. Après cela, en 1976, elle a terminé l'enregistrement de son premier album avec Jack Lesmana, en figure de jazz indonésie, intitulé « Feu d'amour » créé par Yahya, était assez réussi sur le marché à cette époque. Bon, serviteur, écoutons maintenant l'autre chanson de Rinja Main, intitulée « Feu d'amour. Bonne écoute.
Thank you.
Le succès de l'album Rinjamain, intitulé Api Asmara, au feu d'amour, ne peut pas être séparé de la musique jazz qui est bien emballée, si bien qu'elle est amicale à écouter en ne perdant pas les caractéristiques et les nuances du jazz lui-même. En 1978, elle a enregistré à nouveau un deuxième album intitulé L'âme, suivi d'un troisième album intitulé Maître et nous, en 1979. Dans son troisième album, elle fait entrer des éléments de bossa nova avec d'autres musiciens tels que Yopi Item Combo et Abadi Sussman Big Ben. Serviteurs, avant de terminer notre programme, voici l'autre chanson de Rinjamain intitulée « Rien n'est plus beau qu'aujourd'hui ». Bonne écoute et à demain.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca. Thank you. Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voiindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.